Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
C'était inévitable de toute manière. Je crois qu'on s'est vraiment lâché. Maintenant, il faut qu'on assume. Il faut que la Martinique assume. C'est tout.
Situation compliquée à cause du Covid dans les DOM. La Martinique reconfinée à partir de demain soir pour 3 semaines. Une mesure qui exaspère la population, malgré tout, sans la surprendre.
En métropole, la situation s'est fortement dégradée dans le Grand Est. Et pour la première fois, ce sont les 20-29 ans qui sont le plus touchés. Pour en parler, nous serons avec Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, dans un instant.
La délinquance a explosé cette année sur les 6 premiers mois, notamment les violences sexuelles et les faits d'escroquerie. Décryptage à suivre.
À Tokyo, la France continue sa moisson. 3 nouvelles médailles aujourd'hui, 3 en argent. Beaucoup de joie et un peu déception.
La Bourse de Paris termine en hausse, plus 0,37% pour le CAC 40 à 6633 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry. Alors pour demain, passage faiblement pluvieux sur un très large quart nord-ouest et puis des averses orageuses qui remontent du sud-ouest vers le Massif central et les Alpes.
À tout à l'heure Marlène.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La situation sanitaire se dégrade fortement dans les départements d'outre-mer. Après la Martinique, c'est l'île de la Réunion qui a décidé un reconfinement partiel à compter de demain et pour 15 jours. Une première depuis le confinement du printemps 2020.
La Martinique, elle, sera confinée dès demain soir pour une durée minimale de 3 semaines. 4e confinement depuis le début de cette crise sanitaire. Dès 19h, restaurants et salles de sport devront fermer. Les déplacements en journée entre 5h et 19h seront limités et l'accès aux plage ne pourra se faire que de manière dynamique. Une mesure qui n'a pas vraiment surpris la population, Florin Houssou.
Non, car l'explosion du nombre de cas depuis le début des grandes vacances avait déjà mené au retour d'un couvre-feu à 21h, mais visiblement insuffisant. Et c'est bien cela qui irrite Nicolas.
Ça fait quand même 3 fois qu'on le fait, il n'y a pas de résultat. Donc à mon avis, je ne sais pas trop si ça fonctionne bien. Et très chiant, parce que quand on vient voir notre famille et qu'on nous empêche de bouger, forcément c'est compliqué, quoi.
Selon les autorités sanitaires, les principaux foyers de contamination restent les fêtes privées organisées à la maison ou sur la plage. Beaucoup d'ailleurs sont résignés ce soir, à l'image de Marie-France. Elle habite à Fort-de-France.
C'était inévitable de toute manière. Je crois qu'on s'est vraiment lâché. Les conséquences sont là. Et je pense que c'était inévitable. Maintenant, il faut qu'on assume. Il faut que la Martinique assume. C'est tout.
Certains restaurateurs vont continuer à travailler grâce à la vente à emporter. Mais pas Christophe, patron d'une crêperie à Rivière-Salée. Un dernier service demain midi et ensuite une seule option.
Vider les frigos, en jeter le moins possible et puis attendre les nouvelles dans 3 semaines. Quoi. Je suis blasé en fait. Parce que depuis 1 an et demi, c'est trop long. Quoi. C'est toujours les mêmes qui prennent. Quoi.
Tous ces professionnels touchés par le confinement pourront bénéficier des aides du gouvernement comme le chômage partiel. Partiel bonifié ou encore le fonds de solidarité.
Florin Houssou en Martinique pour Europe 1.
Bonsoir Philippe Amouyel.
Bonsoir.
Professeur de santé publique au CHU de Lille. Reconfinement en Martinique, à La Réunion. Pourquoi les chiffres explosent ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La personne qui était interviewée vous l'a dit, ils se sont beaucoup lâchés. Donc ça veut dire que le virus a énormément circulé dans cette période estivale de relâchement des mesures barrières telles qu'on les a connues au mois de juin. Puis le deuxième point, c'est que le taux de vaccination à Martinique ne dépasse pas 19%.
Ouais.
Donc là, la barrière qui peut être apportée, comme on la connaît sur la métropole, n'est pas du tout amenée. Donc le virus se répand comme lors des premières, deuxième ou troisième vagues.
Et conséquence de cela, les hôpitaux craignent d'arriver à saturation.
Alors c'est plus que ça, puisqu'aujourd'hui la tension hospitalière est estimée à 115%, et je vous rappelle que le passage à l'urgence en matière de tension hospitalière, c'est 30% le seuil de passage.
Professeur Amouyel, en métropole, cette situation est inquiétante également dans le Grand Est. 8 départements sur 10 qui ont atteint le taux d'incidence de 50 pour 100 000 habitants, c'est ce que fait savoir l'ARS. Et ce sont les jeunes, les 20-29 ans, qui sont les plus touchés.
Oui, parce qu'en fait, c'est là que le virus circule le plus. Cette population de moins de 50 ans, on va dire, n'a pu commencer à se vacciner qu'à partir du 15 juin. Donc, elle n'a pas encore eu le temps d'avoir son process à 2 doses. Il faut qu'elle puisse se faire vacciner, bien que la vaccination accélère. Et donc, la circulation est forte. Alors là, on n'est pas dans les situations qu'on observe dans les dom-toms.
Ouais.
Mais en revanche, on est à des seuils qui sont en moyenne aux alentours de 160 d'incidence dans le Bas-Rhin, avec des pics, comme on le voit beaucoup en France, sur les grandes villes. Et Strasbourg a quasiment un taux qui est double de ça d'incidence, d'où l'idée éventuellement de commencer à se préparer à mettre des mesures de restriction.
Et là encore, la situation est inquiétante, notamment au CHU de Strasbourg.
Tout à fait. Apparemment, il semble avoir des patients, mais là, C'est le temps malheureusement qui le dira, mais il est important d'essayer d'anticiper. Je crois que cette décision d'éventuellement mettre en place des restrictions pourrait être un outil qui permettrait de réduire la circulation.
Professeur Philippe Amoyel du CHU de Lille, merci à vous professeur.
Merci.
Dans l'actualité également, ces chiffres qui inquiètent. Sur les 6 premiers mois de l'année, la délinquance a augmenté de façon spectaculaire en France. Il y a eu depuis janvier davantage de violences dans le pays que durant la crise des Gilets jaunes il y a 2 ans.
Les homicides et les atteintes aux personnes ont légèrement augmenté. Et autre tendance qui s'inscrit dans la durée, l'augmentation des faits d'escroquerie et de violences sexuelles, Marion Dubreuil.
Exactement, ce sont les deux indicateurs qui augmentent de manière significative. Les chiffres sont difficiles à comparer avec l'an dernier car la délinquance a subi un coup d'arrêt avec le premier confinement, mais on peut se référer aux 2 premiers trimestres de 2019. Depuis le début de l'année, les services de police et de gendarmerie ont enregistré plus de 200 000 infractions liées à des escroqueries en seulement 6 mois. C'est une hausse de 14% par rapport à la même période en 2019. Cela comprend les faux en écriture publique, la fausse monnaie, mais aussi les abus de confiance et notamment les arnaques à la fausse qualité, de faux policiers, de faux médecins. La crise sanitaire a pu être un tremplin pour certains délinquants avec de nouveaux trafics. Les violences sexuelles ont elles aussi explosé. C'est une tendance qui s'inscrit là aussi dans la durée pour le service statistique du ministère de l'Intérieur. Cela s'explique par la libération de la parole et l'amélioration de l'accueil des victimes en brigade et en commissariat. C'est une hausse de 34% par rapport à 2019, avec près de 35 000 faits de harcèlement et d'agression sexuelle et viol rapportés aux forces de l'ordre en 6 mois, soit environ 200 par jour.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Et on en parlera longuement dans les grandes voies dès 18h30.
Nouvelle opération en coup de poing des associations de défense des sans-abri. 400 sans-domicile fixe ont planté leur tente aujourd'hui sur la très chic place des Vosges à Paris. Une opération pour demander à l'État des solutions d'hébergement dignes et pérennes. Ces familles accompagnées d'enfants, ces mineurs isolés sont accompagnées par le collectif Réquisition qui réclame que les 400 000 logements vacants en Île-de-France soient réquisitionnés pour les sans-abri.
18h08 dans l'actualité économique, ces chiffres de bon augure dans l'aéronautique, malgré la crise qui touche en ce moment de plein fouet le secteur aérien à cause de la pandémie, les avionneurs se portent plutôt bien.
Oui, après Boeing en début de semaine, c'est Airbus qui a publié ses résultats semestriels aujourd'hui. Et clairement, les deux géants de l'aéronautique redécollent. Airbus relève même fortement ses objectifs de livraison d'avions et de bénéfices pour cette année, Emmanuel Duteil.
On était face à une montagne à franchir et on a franchi la montagne. Ce sont les mots ce matin de Guillaume Faury, c'est le patron d'Airbus. Mais il reste encore un paquet de cols à franchir. Les compagnies aériennes n'ont pas encore retrouvé, bien loin de là, leur niveau de remplissage d'avant-crise, notamment sur les vols longue distance. Le prix des billets d'avion est encore en moyenne plus bas qu'avant l'arrivée du Covid. Et puis surtout, le variant Delta jette un trouble sur cette reprise. Malgré tout, selon Airbus, la sortie de crise est progressive. Le groupe remonte donc ses niveaux de production, notamment sur l'A320, ce monocouloir, c'est vraiment son best-seller. Le groupe sort aussi progressivement des dispositifs d'activité partielle. Grâce à cette reprise, Airbus espère livrer 600 avions cette année. Il tablait jusque-là sur près de 570. Le grand concurrent Boeing voit aussi un petit peu la lumière au bout du tunnel. Le groupe a gagné de l'argent au deuxième trimestre pour la première fois depuis 2019. Et les compagnies recommencent à commander. United vient par exemple de passer la plus grosse commande de son histoire. 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. C'est un procès rarissime qui se tiendra en septembre à Paris, celui d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Le ministre chargé des PME, Alain Griset, comparaîtra le 22 septembre devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir déclaré tout son patrimoine.
Louis Dragnel, après la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti il y a maintenant une dizaine de jours pour prise illégale d'intérêt, ça commence à faire quand même beaucoup pour ce gouvernement.
Oui, en fait, la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, créée après l'affaire Cahuzac, a saisi la justice il y a plusieurs mois, le 24 novembre dernier pour être précis. Elle reproche à Alain Griset, entré il y a 1 an au gouvernement, d'avoir omis de déclarer un PEA pour un montant de 171 000 euros. En fait, une partie de cette somme, 131 000 euros, a été confiée par le bureau de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services du Nord, directement à Alain Griset, qu'il a ensuite placé sur ce fameux PEA personnel. Alors, la HATVP estime que le ministre des PME s'est mis dans une situation de confusion des patrimoines, ce qui est illégal. De son côté, l'entourage d'Alain Griset évoque une maladresse vite corrigée. aucune volonté d'enrichissement personnel. L'ancien chauffeur de taxi pendant 30 ans avait par ailleurs remboursé la somme après être entré au gouvernement. L'annonce de cette convocation par la justice intervient seulement 15 jours après la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti. Et si la mise en examen du garde des Sceaux n'a pas entraîné son départ du gouvernement, il pourrait en être autrement pour Alain Griset en cas de condamnation.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.
Et comme chaque année, cette mauvaise nouvelle pour la planète aujourd'hui marque le jour du dépassement. Nous avons épuisé toutes les ressources de la planète. Un jour qui a lieu cette année, 3 semaines plus tôt que l'année dernière.
Oui, selon un rapport du GIEC publié dans les prochains jours, 2 endroits au monde menacent la survie de l'homme en raison du changement climatique. Le premier se trouve à Ras El Khaimah dans le golfe Persique. L'autre est au Pakistan où forte chaleur et humidité pourraient tuer un être humain en seulement quelques heures. À Islamabad, Elodie Goulesque pour Europe 1.
Des rues désertes et un hôpital pris d'assaut par des patients atteints d'insolation. Voilà, selon le quotidien The News, la routine des habitants de Jacobabad, dans le sud du Pakistan. En cause, une chaleur intense et humide qui empêche le corps de transpirer et provoque une surchauffe pouvant entraîner la mort en 6 heures seulement. Pourtant, aujourd'hui, près de 200 000 personnes vivent dans cette ville de la province du Sindh. La majorité est pauvre et sans accès à des climatiseurs ou ventilateurs. Si la région est connue pour ses fortes chaleurs, cette nouvelle dénomination de zone inhabitable est préoccupante, selon Aisha Khan, directrice du think tank Société civile pour le changement climatique.
Cette étape a été dépassée des dizaines d'années avant les prévisions de l'impact du changement climatique. Il n'y a donc pas assez de temps pour préparer et anticiper les mesures à prendre. Quand la survie deviendra impossible, j'imagine qu'il y aura une immigration de masse depuis cette région. Et Jacobabad n'est qu'un avant-goût. Il y aura d'autres provinces du Pakistan qui seront affectées elles aussi.
Il s'agira donc de l'un des enjeux de la COP26 en novembre prochain, redistribuer les ressources pour aider les pays en développement en première ligne face au changement climatique. Islamabad, Elodie Goulesque, Europe 1.
4 mois après avoir totalement bloqué le canal de Suez, on s'en souvient, le gigantesque porte-conteneur de 400 mètres, l'Ever Given, est enfin arrivé à Rotterdam.
Il avait pu prendre la route il y a 3 semaines après 100 jours d'immobilisation, ce qui avait permis la signature d'un accord confidentiel d'indemnisation entre les autorités égyptiennes et le propriétaire japonais du navire.
Allez, on passe au sport avec les Jeux Olympiques. Bien sûr, 3 nouvelles médailles pour la France aujourd'hui.
11 médailles en tout pour les Bleus depuis le début de la compétition. Des récompenses en argent remportées en aviron, en judo et au fleuret, des podiums, mais avec un peu de déception, Julien Fauvin.
Oui, même si la déception a rapidement été évacuée pour les athlètes argentés aujourd'hui. Des médailles toutes remportées par des femmes, à commencer par le 2 de couple en poids léger, la doublette Claire Beauvais-Laura Tarantola. Eh bien, elles se sont arrachées pour décrocher l'argent à seulement 14 petits centièmes des Italiennes. Mais pas de regret, bien au contraire, pour les deux Françaises qui ont répondu à Bruno Cuaz.
Bah là, c'est clair que depuis ce matin, on est un peu sur notre nuage. Là, on n'en redescend pas, mais tant mieux. On vit plein de choses merveilleuses. On ne réalise pas du tout encore ce qui se passe, clairement. Mais c'est chouette, c'est que du bonheur et tout roule.
Bah ouais, on n'a pas forcément conscience que l'or est si proche, quoi. Et en même temps, bah, on ne regrette pas l'argent parce que bah, la cinquième place était aussi très très proche.
Et puis en judo, les larmes de déception de Madeleine Malonga ont laissé place à un immense sourire en moins de 78 kilos. La Française n'a rien pu faire face à la Japonaise Shuri Hamada, battue sur Ippon par immobilisation. Mais elle donne déjà rendez-vous dans 3 ans à Paris. Enfin, l'argent aussi pour les fleurettistes françaises par équipe après une improbable remontada en demi contre l'Italie. Et bien cette fois-ci, elles n'ont rien pu faire également face à la Russie. Mais avec cette médaille d'argent, le fleuret féminin tricolore l'attendait bien depuis les Jeux de Los Angeles en 1984. Ajouté à cela, Charline Picon en planche à voile assurée samedi de remporter une médaille. Et la France en sera à 12 breloques et bien ancrée dans le top 10, classement dominé par la Chine, le Japon et les États-Unis. Mais ça devrait bouger encore demain avec bien évidemment l'entrée en lice de Teddy Riner plus de 100 kilos pour une 3e médaille d'or olympique consécutive.
Et Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Et merci à vous Sophie Tusson, on vous retrouve bien sûr à 18h30. La météo, Marlène Duré. Alors, comme prévu, le temps se dégrade dès ce soir.
Oui, on a une perturbation qui se rapproche de la Bretagne avec quelques pluies, du vent. D'ailleurs, d'ici à demain soir, on attend des pointes à 90 km à l'heure près de la Manche, hein, entre le Cotentin et le Nord-Pas-de-Calais. Ce temps faiblement pluvieux, c'est pas de grosses pluies, hein, va traverser cette nuit et demain matin les régions du quart nord-ouest. L'après-midi, ce sont les régions allant du Nord-Aquitaine à la Lorraine, en passant par le Limousin et la Bourgogne qui se retrouveront sous cette bande faiblement pluvieuse. Et puis à l'avant, dans de l'air chaud, on a des averses orageuses. Et elles vont remonter dès ce soir, du sud Aquitaine vers l'Occitanie, avant de se décaler vers la Provence en deuxième partie de nuit. De nouveaux orages vont reprendre ce vendredi matin, toujours au même endroit, entre l'est de l'Aquitaine, le Limousin, le Midi-Pyrénées, jusqu'en milieu de matinée. Une fois arrivées à l'Auvergne, elles se renforcent et puis elles vont prendre le chemin du Mâconnais, de la Franche-Comté, de la région Rhône-Alpes et du sud des Alpes. Toujours beaucoup de soleil sur la bordure méditerranéenne.
Comme d'habitude.
Et le soleil va résister en Alsace aussi.
Les chances.
Ça, c'est bien. Ah. Quelques températures pour demain. 19 degrés au Havre, 20 à Douarnenez, 22 à Pau, 23 à Royan, 24 à Blois, Paris-Toulouse, ça baisse dans le sud-ouest, hein, il faut le dire, 25 à Saint-Étienne, mais nous aurons encore 29 à Strasbourg, à Aubenas, à Menton, 30 à Marseille, 31 à Valence, jusqu'à 32 en Haute-Corse.
Merci Marlène, à tout à l'heure.